chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud.
Il n'y aura pas d'effondrement, Jacques. Lâchez.
Résistance et alternative au changement climatique. On en parle dans la chronique Plus chaud que le climat sur JetFM 91.2.
Bienvenue dans Plus chaud que le climat sur JetFM. On est avec Camille, Margot et moi-même, Charlotte. Et pour cette dernière chronique de la saison, on va parler forêt. Les forêts jouent un rôle essentiel dans le maintien de cet équilibre savant qui rend la vie possible.
Elles purifient l'eau, la stockent, génèrent de l'oxygène. Elles rafraîchissent, nourrissent, abritent, soignent même grâce à ces plantes médicinales. Au-delà de tout service rendu, les forêts sont vivantes et abritent toute une biodiversité, un véritable écosystème. La présence humaine a un impact considérable sur la forêt. Sans elle, les forêts recouvriraient l'écrasante majorité de la surface terrestre. Les forêts contribuent ainsi à limiter l'impact délétère des activités humaines.
Puits de carbone, elles ralentissent le réchauffement, elles freinent aussi les inondations que l'on prévoit de plus en plus fréquentes. Face au changement climatique et à ses conséquences, elles sont donc de précieuses alliées. Naturelles, elles font pourtant l'objet d'une politique de gestion. Comment la France gère-t-elle ce bien commun ?
Nous en avons discuté avec Lucas, qui travaille à l'Office national des forêts, organisme public chargé de la gestion des forêts.
Et Bruno, de Canopée Forêts Vivantes, association s'opposant à une exploitation industrielle des forêts pour la défense de ces écosystèmes. Alors d'abord, on les laisse se présenter.
Bonjour, je suis Lucas du SNUPFEN Solidaire, je suis représentant des Pays de la Loire. Le SNUPFEN Solidaire, c'est le principal syndicat à l'Office national des forêts. C'est en tant que représentant syndical que je suis à cette émission.
Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Bruno, je travaille pour une association qui s'appelle Canopée Forêts Vivantes. C'est une association de protection de la forêt. On agit au niveau national mais aussi au niveau international sur les forêts tropicales.
En France, on entend aujourd'hui qu'on a beaucoup de forêts et que leur surface en plus, elle augmente. Alors c'est quoi le problème aujourd'hui ?
Tout dépend de ce que tu mets dans la définition du mot forêt. Si tu considères qu'une forêt, c'est un champ d'arbres avec plein d'arbres les uns à côté des autres comme un champ de maïs, alors oui, la surface de la forêt augmente. Mais si tu considères que la forêt, c'est un écosystème dans lequel il y a des animaux, des plantes, des champignons, des mousses, alors là, dans ce cas, on régresse. Parce qu'en fait, la qualité de la forêt diminue.
Il faut bien comprendre que la gestion forestière est compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, on voudrait plus de naturalité, mais la forêt naturelle, elle amène à quelque chose qui ne sert pas toujours les besoins humains dans leur fonctionnement de société.
Par rapport à ce que tu dis, donc les forêts sont de moins en moins naturelles finalement, mais alors dans quelle mesure c'est nécessaire de les entretenir ?
Alors d'abord, c'est pas nécessaire de les entretenir. Ça dépend de ce que tu veux en faire. Mais sans l'humain, depuis des millénaires, les forêts elles ont existé, elles ont grandi, elles sont très bien portées sans nous. Donc la forêt a besoin de nous, en fait. Par contre, nous, on a besoin de la forêt. On a besoin de bois qui sort de la forêt. On a besoin de différentes choses qui proviennent de la forêt. Et pour pouvoir les obtenir, eh ben là, on a besoin de gérer la forêt, tu vois. Et c'est ça le truc à bien comprendre. C'est que la forêt, sans nous, elle s'en sort.
Il y a quelques cas particuliers, quand même, sur la gestion des problèmes de DFCI.
Oui.
La DFCI, c'est la défense des forêts contre l'incendie.
C'est oui.
Donc c'est un risque qui existe dans les forêts du Sud et qui va, avec le réchauffement climatique, devenir de plus en plus prégnant dans le reste de la France. Ça va être un des enjeux majeurs de la gestion forestière en France, c'est-à-dire de la préservation même des forêts. Pendant longtemps, on a pensé à la production forestière. Ce qui risque d'arriver avec les changements climatiques, c'est qu'il va falloir penser à la préservation et à la survie des forêts. Et c'est vraiment ça qui va être de plus en plus important, je pense, en matière de gestion forestière. La gestion forestière telle qu'on la connaît depuis longtemps, elle va être complètement bouleversée par ce phénomène-là.
Mais si je peux me permettre, il y a quand même un truc qui est important à bien comprendre là-dedans, c'est qu'il y a... Dans l'industrie du bois, souvent l'argument climatique, il est utilisé pour dire, bah voilà, il faut qu'on remplace nos forêts qui existent, qui sont naturelles ou plus semi-naturelles, par des plantations d'une essence que nous on choisit et dont on considère qu'elle va être adaptée selon l'évolution du climat. Enfin, parfois c'est un piège. C'est un prétexte. En fait, le but, c'est d'industrialiser la forêt avec des bois qui poussent vite pour pouvoir les récolter. Et donc, il faut faire très attention à cet argument-là. Les forêts, elles vont pouvoir s'adapter au changement climatique à leur vitesse. Peut-être qu'on peut les aider à certains endroits en faisant ce qu'on appelle la migration assistée. Donc ça, c'est t'observes comment les arbres évoluent et tu les aides à évoluer plus vite. Mais on n'a pas la solution miracle au changement climatique. On donne l'idée qu'il faudrait introduire des espèces exotiques, tu vois, qui seraient adaptées à un climat plus chaud, qui poussent déjà dans un climat où il fait plus chaud. Le problème avec ça, c'est que, par exemple, ce qu'on sait, c'est que les épisodes de grand chaud et de grand froid s'intensifient. Donc, si t'importes une espèce, une essence qui est plus adaptée à un climat chaud, elle n'est pas forcément adaptée à un hiver très froid. Et nous, on peut avoir des moyennes plus chaudes, mais avec des hivers très froids pour autant. Et donc, en fait, tu fais un pari, tu vois. Tu dis, moi, je pense que cette essence, elle va résister, elle est adaptée. Et ben, peut-être que tu te trompes. Et si, en plus, par malheur, tu plantes que ça, et souvent, c'est ce qui se fait, et tu t'es trompé, ben, c'est tout qui meurt.
J'ai pas dit qu'il fallait remplacer la forêt naturelle par des forêts monospécifiques. C'est juste qu'à un moment, la naturalité, elle va être confrontée à des phénomènes qui vont nous obliger à intervenir. Par exemple, l'idée que moi je trouve toujours séduisante, c'est-à-dire de dire on va intervenir le moins possible, faire une sylviculture le plus proche possible de la nature. Les changements climatiques vont peut-être empêcher de faire pleinement ce choix-là et on va être obligé de planter. Et peut-être d'accompagner ces changements climatiques et d'être finalement interventionniste. Mais ça, on n'en est pas certain. Peut-être qu'un accompagnement, une sylviculture plus proche de la nature, des travaux moins intensifs, peut-être suffiront. Le but, c'est d'augmenter la résilience des forêts. Donc la résilience, c'est la capacité des forêts à résister aux changements. Ça passe par plusieurs axes, c'est-à-dire... La préservation des sols, qui est la matrice de la gestion forestière. Parce que souvent, dans les forêts, on pense aux arbres, mais on ne pense pas au sol, qui est vraiment un élément très important dans sa préservation. C'est la diversité des essences, c'est-à-dire avoir un maximum d'essences différentes. Parce qu'on ne sait pas finalement, peut-être il y en a qui résisteront le mieux, et puis il y a des essences qui ont des diversités génétiques qui leur permettent de mieux résister et d'avoir des réponses. Plus un panel de réponses plus importante au changement climatique. Le chêne reste l'essence la plus plastique. Alors plastique, c'est-à-dire qui est le plus capable de s'adapter à des conditions différentes sur le secteur, sur notre région. Voilà.
Quelque chose qu'il faut bien connaître aussi, c'est qu'en France, il y a des forêts qui sont privées, des forêts qui sont publiques. La majorité des forêts sont privées, 75% des forêts sont privées et 25% seulement sont publiques. Et les forêts qui sont publiques sont gérées par l'Office National des Forêts. Donc l'acronyme c'est l'ONF, c'est là où travaille Lucas par exemple. Tu peux avoir plus rapidement quand même des logiques de productivité dans le privé que l'ONF.
Et en même temps, dans le privé, il est question aussi parfois d'initiatives dans le but de préserver les forêts, c'est ça ?
Le fait de se regrouper dans un groupement foncier citoyen, c'est quand des gens ensemble achètent une forêt, tu vois, et qui disent, bah, cette forêt, elle est à tout le monde de fait, et en plus de droit, maintenant, elle est aussi à tout le monde parce qu'elle nous appartient grâce à ce groupement foncier, et donc on va la gérer différemment en mettant l'accent sur tous ces services-là que la forêt peut apporter, donc purifier l'eau, purifier l'air, etc.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour préserver les forêts et qu'elles s'adaptent au changement climatique annoncé?
La première réponse de l'État était, au travers du plan de relance, de donner 200 millions à dépenser en 2 ans.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir avoir accès à cet argent, quand tu es propriétaire privé, tu devras répondre à un appel d'offres. Et les critères de l'appel d'offres sont faits de telle manière que seules les grosses coopératives forestières, qui sont totalement dans la logique d'industrialisation dont je parlais tout à l'heure, sont capables de répondre à l'appel d'offres. Donc en fait, c'est elles qui vont récupérer cet argent-là pour faire des plantations de monoculture. Ça, c'est une stratégie qu'elles assument, pour après, derrière, faire des coupes rases et replanter, et refaire une coupe rase, et replanter, et refaire une coupe rase. Et donc ça, c'est très mauvais pour la forêt.
Il faut quand même bien reconnaître que le politique, les hauts fonctionnaires dans les ministères n'ont pas compris l'enjeu de la préservation des forêts face au changement climatique. Pendant trop longtemps, la gestion forestière, elle s'est quand même plus attardée sur la production de bois que sur la compréhension de l'écosystème et son fonctionnement biologique.
Concernant l'Office national des forêts, comment il se porte aujourd'hui ?
Alors très très mal, et depuis trop trop longtemps. Ça fait à peu près 30 ans que les, euh, que les effectifs sont en baisse. On a perdu 40% de nos effectifs sur cette période. Comment on peut être intéressé de la question forestière et laisser l'établissement dépérir de cette façon-là?
Pourquoi est-ce que le gouvernement diminue les effectifs de l'Office national des forêts? Parce qu'il dit que l'Office national des forêts n'est pas rentable. Et c'est là où tu comprends le truc. C'est qu'il n'est pas censé être rentable, il n'est pas là pour être rentable. Qu'est-ce qui est rentable dans la forêt? C'est quand tu sors du bois. Ok, très bien. Sauf que la forêt, elle fait plein d'autres trucs. Elle purifie l'air, elle purifie l'eau, elle est belle, c'est un réservoir de biodiversité, etc. Et donc, c'est ça aussi les services que rendent les forestiers. Les gens de l'Office national des forêts, ils sont censés nous aider à avoir des forêts en bonne santé, à les connaître, à pas les détruire, et ils sont pas juste là pour sortir du bois et faire rentrer du fric. Et donc c'est ça le cœur du problème, quoi. C'est est-ce que tu vois la forêt comme une agriculture qui est là pour produire, ou est-ce que tu vois la forêt comme un écosystème à préserver qui nous rend plein de services, dont le bois, certes, mais c'est pas le seul.
Et donc aujourd'hui, quelles sont actuellement les sources de financement de l'ONF?
Pendant longtemps, la principale source, c'était les ventes de bois. Aujourd'hui, elle représente, je crois même plus, à peine 30% des revenus de l'établissement. Après, il y a les concessions, la chasse, la pêche.
Il y a bien une privatisation de l'ONF qui est en cours. C'est pas toujours évident pour tout le monde parce que c'est pas aussi flagrant. C'est pas comme quand tu vends à l'aéroport à Roissy et que tu dis, bah, ça y est, on le vend à un privé. C'est pas tout à coup comme ça. C'est sur du temps long. C'est beaucoup plus rampant. C'est comme ça a été fait pour EDF, par exemple. D'abord, tu contractualises, t'enlèves les statuts de fonctionnaire, tu filialises, tu découpes un petit bout et après, tu commences à vendre. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'Office national des forêts sera privatisé? Bah, c'est simple, les gens qui vont acheter ces parties d'ONF, elles vont pas le faire parce que elles sont très gentilles, elles ont envie que les forêts se portent bien, peut-être, mais c'est peu probable. Ce qui est plus probable, c'est que ce sont des investisseurs qui arrivent pour que ça soit rentable. Et encore une fois, qu'est-ce qui est rentable dans la forêt? Le bois. Et plus tu produis de bois, plus tu détruis de la biodiversité, parce que tu peux pas produire énormément, en tout cas pas rapidement. Sur le temps long, c'est différent, mais sur le temps court, tu peux pas produire énormément, tout en gardant une belle biodiversité, un bon puits de carbone, etc.
Ce ne sera peut-être pas que la production de bois qui peut être regardée comme une valeur ajoutée à l'office. Ça peut être aussi un refuge de droits à polluer par des mécanismes de compensation par la fixation du carbone. On voit quand même beaucoup que sur la fixation du carbone, le fait que les forêts poussent et fixent du carbone, en fait, ça, on peut financer des actions, et ça commence déjà, des mécénats, ou financer des actions comme des plantations, qui sont présentées comme des puits de carbone, et qui peuvent, dont on peut dire, ah bah tiens, voilà, j'ai fait une super action, j'ai fait des fixations, j'ai aidé à la fixation du carbone. On peut pas laisser une ressource à des intérêts privés.
Si par exemple la forêt purifie l'eau et que le propriétaire, lui, décide de zigouiller complètement son sol pour faire une coupe rase pour avoir beaucoup de bois rapidement, et ben derrière l'eau, il va falloir qu'on construise une station d'épuration, qu'on va payer avec nos impôts parce qu'il va falloir qu'on purifie l'eau d'une autre manière. Et donc en fait, tous ces services-là, ils sont pas immédiatement palpables en monnaie, mais au bout du compte, il faut bien qu'ils soient rendus, sinon on peut plus vivre. Une forêt est remplie un rôle dont on profite tous. Si les questions vous intéressent, vous pouvez aller faire un tour sur le site de Canopée. On a notamment une pétition qui est en ligne contre la privatisation de l'ONF. Donc ça, c'est un sujet dont on a assez largement parlé. Donc en fait, on est en train d'essayer de modifier la loi climat pour faire rentrer la forêt dans la loi climat. Donc il y a tout un tas de choses qu'on est en train d'essayer de pousser en ce moment même, aujourd'hui même, au Sénat.
On remercie Lucas et Bruno pour nous avoir exposé les problématiques qui pèsent actuellement sur la gestion des forêts. Si cette question complexe est sujette à débat, nous retenons votre volonté commune que la forêt ne soit plus considérée comme une usine à bois.
Nous espérons que votre combat fera des émules et que des aberrations telles que des arbres découpés en France, envoyés en Chine pour transformation, puis envoyés en France pour de la vente, ne seront bientôt qu'un mauvais souvenir, même s'il nous est permis de douter. Pour cet été, on se souhaite à toutes et à tous de s'éloigner un peu plus du monde insensé auquel la surconsommation a donné naissance. Et on se retrouve en septembre, on espère, toujours plus chaud que le climat.